Grande conversation de l'Institut Néo-Québec, invité Ben Marc-Diendéré, président du Conseil des arts de Montréal, deuxième partie, suite et fin de la conversation. Lorsque nous nous sommes séparés, nous étions en 2011. Ben Marc-Diendéré quitte le groupe Québécois pour une nouvelle aventure professionnelle. Explication.
Non, mais je commence quand même rendu 8 ans après, je commençais à comprendre l'organisation, le corpo, comment ça fonctionne. Quand vous rentrez dans une organisation, demandez-vous où est-ce que vous êtes dans le cycle de l'organisation, de sa planification stratégique. Une organisation, c'est 4 ans, ou 5 ans, 5 ans. Si vous arrivez au milieu, vous demandez, il reste combien d'années là, pour que ça finisse ce qu'ils sont en train de finir, qui n'a rien à voir avec vous, ou bien vous êtes au début d'un cycle ou à la fin d'un cycle. Il faut toujours se positionner dans l'organisation, dans le plan stratégique où vous êtes. Alors, moi, j'ai vite compris.
J'ai vu mes étudiants favoris entrer, là. J'espère que ça rentre dans vos têtes.
Alors, moi, j'ai compris très vite que le bloc de 5 ans, c'était la vie de l'organisation, ou 4 ans. Et moi, j'étais dans une société à la bourse. Écoutez, vous émettez un communiqué au trimestre et vous recommencez à écrire le communiqué suivant pour le prochain trimestre. Tant ça va vite, ça roule trop vite. Les rendements doivent venir et tout ça. Et puis, la planification stratégique, il n'y a même pas de secret en arrière. Ou vous êtes en période de décentralisation, c'est-à-dire que vous êtes en train de sortir les morceaux qui ne marchent pas, ou là vous licenciez à gauche, à droite, ou vous êtes en période de recentralisation, c'est-à-dire que vous êtes en train de remettre des nouvelles affaires dans l'organisation, ou vous êtes en train d'acquérir de nouvelles affaires. C'est un mouvement comme ça, ouvert, fermé, décentralisé, centralisé. Mm-hmm. C'est ça que tu fais pour 5 ans. Et quand tu comprends ça, tu te dis, ok, j'ai fait la décentralisation, là je fais la recentralisation, qu'est-ce que je fais encore la décentralisation? C'est pas le fun. Parce que quand tu regardes communication, dans ma job à moi, c'est émettre des communiqués sur la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. On licencie 500 personnes, on est en décentralisation, ensuite il faut embaucher du monde, ensuite on recentralise. C'est ton nom qui est au bas du communiqué souvent. Et tu te dis à un moment que... Alors, je suis arrivé à la fin du cycle et Québécois avait fait quand même beaucoup de transformations. Donc, la télé en ligne, le sans fil de Vidéotron, on a fait tout le lobbying et le travail. La recentralisation des salles de nouvelles qui ne s'est pas fait sans
casse.
Sans casse. Okay, 2-3 lockouts quelque part. Et de long. J'ai pas perdu beaucoup d'amis, donc Dieu merci. Et quand ça finit, je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de repartir le prochain cycle de l'organisation? Et c'est bizarre que ce que je veux dire, hein? Mais autant j'avais travaillé à bâtir la transition de la partie média, je ne croyais plus aux médias. C'est pas une business viable telle qu'elle était. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire dedans? Continuer à refaire la même chose et tout ça. Et de fait, j'ai décidé, à une période de transformation aussi chez Québécois, de dire, je me casse.
Et donc là, on va chez...
Au grand dam de mon patron qui a fait quelques mois sans me parler.
Vous vous reparlez depuis?
Non, il m'a boudé.
Ok, mais là, c'est...
Ah, même oui, c'est sérieux. Okay. Dès que j'ai ma prochaine job, qui était le premier à m'écrire.
Ok.
Vous me dites qu'il y avait de la publicité à faire dans le journal de Montréal. Je l'aime assez. Non, ouais, on est très amis encore aujourd'hui.
D'accord. Non, c'est on va essayer d'aller vite. C'est la COP fédérée.
Oui.
Grosse encore.
Agroalimentaire.
Agroalimentaire. Donc on est passé des médias. On est à la SODEC, on passe à Québécois Média, on passe à Agroalimentaire avec la COP fédérée. Ce qu'on retient, l'histoire, hein, petite ou grande, peu importe, ce qu'on retient du passage de Ben Marc à la COP fédérée, c'est qu'il est venu, la première chose qu'il a faite, c'est que le nom COP fédérée n'est pas bon, viril, changer. Là, on rentre dans l'image de Marc.
Oui. Okay. Ben, c'est... Pour vos étudiants, c'est très intéressant. Quand vous avancez, quand vous apprenez des organisations, il faut toujours vous ajouter une autre compétence. Moi, je suis rentré rechercher ça à la SODEC et quelqu'un qui savait écrire, je venais de la Sorbonne quand même, donc je pouvais écrire 2-3 communiqués. Et je me suis ajouté la responsabilité des relations publiques. Alors, quand je sortais de Québécois, j'avais les communications, les relations publiques et la recherche. l'institutionnel, je connaissais ça parce que j'avais fait des réseaux et tout ça. Alors, quand j'arrive à la coop fédérée, j'ai les mêmes responsabilités. Affaires publiques, communication, et là, on me colle image de marque. Et je n'ai pas une grande expérience de l'image de marque. Et en plus, j'avais une organisation centenaire qui a 100 ans, elle porte son nom. Et moi, j'arrive et l'organisation, elle se transforme tellement vite que son nom ne colle plus à ce qu'elle fait. Et pire, l'Internet, ce que l'Internet déteste, c'est les mots à répétition. Donc, coop, deux O, ou bien fédéré, il y a deux E. Donc, tu tombes dans les spams des gens parce que tu n'as pas le bon email, tu tombes. Tout devenait compliqué. Mm-hmm. Et l'organisation, la business même, avait changé. On avait acquis BMR, on avait acquis une compagnie en Alberta, on avait acquis une autre compagnie. Mais c'est une coopérative. Elle a plus de 100 000 membres. Il faut convaincre les 100 000 membres que le nom qu'ils connaissent depuis, ce n'est pas le bon. C'est là que mon côté Kunta Kinte est arrivé. Tu ramasses toutes tes forces. Là, tu dis, OK. D'abord, il faut convaincre les membres du comité de direction. Le chef de la direction, je me rappelle la première fois où on a eu la conversation, il m'a dit, OK, Benoît, mais c'est toi qui vas l'amener cette bataille. Puis je te préviens, si on nous dit non, c'est non, ce que tu dis. Mais j'ai fait ce qu'il faut faire, c'est convaincre les gens de la démarche. Convaincre les gens avec des spécialistes, leur montrer le potentiel, qu'est-ce qu'on pourrait faire et échanger, qu'est-ce que ça pourrait donner. Au début, ça va heurter, mais j'avais surtout l'expérience de AgroPure, qui est une coopérative comme nous, qui avait changé de nom, qui était devenu un beau logo avec les yogos et puis et toutes sortes, qui était là. Il y avait Desjardins, qui venait aussi de changer son...
Qui est une coopérative aussi.
Qui est aussi une coopérative. Donc j'avais des modèles qui leur disaient, regardez, on n'est pas le seul à y penser, il y a d'autres qui le font. Et pour la petite histoire, moi, mon changement était plus radical que celle de Desjardins, où lui, c'est la petite abeille qu'ils ont enlevée du milieu. Vous savez, quand vous regardez le logo de Desjardins, le premier logo, c'est une abeille qui est au milieu. Ils ont enlevé l'abeille, mon Dieu.
Le scandale.
Le scandale. Vous nous avez laissé juste des carrés, à quoi ça sert, tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Alors aujourd'hui, le logo, personne ne pose la question même, c'est joli, en plus c'est simple, ils ont simplifié le logo. Mais moi, j'ai changé, pas parce que, je n'ai pas changé tout seul, d'abord, il y a une équipe, il y a des spécialistes, il y a Benoît Bessette qui a travaillé sur ça avec Cossette. Puis, ça n'est une chose de faire vendre l'idée que tu veux changer le nom, ça n'est une chose de leur trouver le nom. Ça a pris 8 ans de ma vie. Finalement, quand je sors, on a changé le nom. Je trouvais ça. Et c'est intéressant. Quand vous regardez la coop, il y a toujours les deux O. Il s'appelle aujourd'hui Solio. Donc il y a toujours les deux O. Donc dans ton visuel, tu as toujours les deux O qui sont là, qui ne sont pas partis. Et Solio, c'est deux L. Donc c'est les deux silos à grains qu'on trouve dans les, okay, dans les champs du Québec. Donc on peut remplacer les deux silos à grains par. Les deux, elles, quand écoute, on a décomposé le logo, les gens se sont vus dedans. Ils ont compris qu'ils pouvaient vivre avec le truc. Solio pour le sol, Solio pour le soleil, c'est pour la solidarité. Donc, tout le monde a compris le mouvement et ils l'ont adopté. Je suis tellement content parce que je vois le logo aujourd'hui qui rayonne très très bien. On l'a décliné. La division d'agriculture, là aujourd'hui, la société mère s'appelle comme ça. Et ça reste une belle, belle, belle transformation.
Je vois le temps passer tellement vite et je n'ai pas encore abordé la culture.
Tu parles trop, tu veux dire?
Non, au contraire. Il y a eu, donc après Groupe Solio, encore transition. Ouais. Et là, 2019, 2022, Via Rail.
Ouais.
Ok, là on passe dans les transports, Via Rail, le Canada. J'avais envie de demander pourquoi, mais je sais déjà c'est quoi la réponse.
Ouais. Bon. Centralisation, décentralisation, deux planifications stratégiques.
Voilà, 5 ans, je dois partir. Ok. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, Via Rail, au moment où vous êtes nommé, boum, pandémie.
Ouais.
Et je pense avant la pandémie, il y a eu blocage de train.
Ouais.
Voilà. Et là, on débarque. Le Kunta Kinte, il débarque, là, comment ça se passe là-dedans?
Non, mais c'est intéressant. Parce que là, je prends un mois de vacances entre les deux jobs. Parce que je me suis dit, oh, prends un mois de vacances, je reviens en super forme. 13 janvier, je rentre. Ma patronne est nouvelle, elle aussi, ça fait 6 mois. Elle dit, oh, je t'attendais, on va faire le tour du Canada, on va aller regarder nos installations. On prend de l'Halifax, ensuite on va jusqu'à Vancouver. Et j'étais sur mon nuage. Là. On allait transformer Via Rail, on allait... Écoute... Après, je pense qu'on est revenu après notre tournée, quelque part à la fin du mois de janvier. Et le 13 février, boum, tout s'arrête. Là.
Un mois, c'est ça? Un mois.
Les Wet'suwet'en de l'Ouest canadien étaient en bagarre avec Gaz, j'ai perdu leur nom, ça fait longtemps dans ma tête, compagnie de pipeline. Ils font une chicane, mais ils décident de bloquer les rails. Donc ils commencent dans l'Ouest, puis la solidarité prend la grandeur du Canada et ça vient bloquer aussi au niveau du Québec et de l'Ontario. Donc tous les rails sont bloqués, ce qui n'est jamais arrivé à Via Rail, d'arrêter le rail en même temps. Mais ça arrête le trafic de Via Rail parce que Via Rail roule sur des rails qui ne lui appartiennent pas. Ça appartient au CN et au CP. Et eux, ils disent, Via Rail, vous débarquez de nos rails pour nous, on veut régler nos affaires d'abord. Et là, moi, je ne connais même pas bien le réseau. Je suis à peine de le découvrir. Il fallait arrêter des trains qui sont en plein champ. Il fallait descendre du monde, trouver des autobus pour sortir du monde, amener, écoutez, là, n'importe quoi. Alors, cette bagarre-là dure un mois. Donc, pendant un mois, on est... Non, il n'y a pas de train, il y a du train. Moi, je te dis, merde, qu'est-ce que je fais? On a une compagnie de train qui ne roule pas. Et il faut quand même que quelque chose se passe. Et le 11 mars, on a la cellule de crise pour ça qui dit, OK, on va la lever parce qu'il y a une entente, le gouvernement canadien s'est mêlé et on lève... la cellule de crise, le 12, on est content, on dit, oh, faut y commencer à y mettre nos communiqués pour dire, le train repart, le 13 mars, pandémie. 13, c'est quelque chose.
Ah oui.
Là, c'est le gouvernement, la ville est fermée, le pays est fermé, tout le monde à la maison, moi j'étais là. Dans quoi je me suis embarqué? Mais c'est une autre dynamique parce que il y a tellement de choses à faire en même temps. Il y a des trains, et nous, on était considérés comme un service essentiel. Donc, on était le dernier recours du transport. Les trains roulaient à vide. Il fallait mettre à pied 1000 personnes sur 3000. Mm-hmm. Écoutez, on rentre dans un cycle de crise qui n'arrête pas. Et puis ça a duré 2 ans.
Ouais. Là, on est entre nous. Là. Est-ce que c'est une expérience positive?
Oui, parce que ça m'a permis de... moi, je ne manque pas l'occasion de la bonne crise, moi. Moi, ça m'a permis de mieux comprendre le système ferroviaire du pays. Okay. D'abord, que même si le pays s'est bâti sur le rail, même si le rail a été le fondement de la mobilité dans ce pays-là, c'est encore le mal-aimé. Et c'est le mal-aimé parce que ça requiert tellement d'investissement qu'il n'y a aucun gouvernement qui va être là pour couper le ruban. Si tu enclenches le processus pour faire le changement, quand tu vas le couper, le gouvernement a changé. Tu ne seras même pas là. Donc, il n'y a pas de gain politique dedans. Et il faudrait que quelqu'un le fasse pour le pays, c'est-à-dire pour les Canadiens. Et là, on part avec des solutions. Tout ça est enregistré, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Okay. Je ne dirai pas le reste. Alors, on part avec des solutions, à mon avis, qui ont besoin d'être un peu plus bold. Et ça reste le mal-aimé. J'ai compris ça. De tous les moyens de transport du Canada, c'est le mal-aimé. Il y a l'avion, le bateau, même les autobus sont plus aimés que les trains. Dans la tête de politique au sens de policies. Et ça, c'est pas normal. C'est quand même un moyen pour l'environnement. C'est quand même un moyen de transport pour
les marchandises.
Et il y a des endroits, si le train n'arrive pas, la poste n'arrive pas. Il y a des endroits où si le train n'arrive pas, les pilules des gens n'arrivent pas, parce que ça transporte aussi IGA et les affaires des autres. Je ne parle même pas de la bouffe, là.
C'est que nous trouvons ça un peu long. C'est long, le train.
Oui, mais ça pourrait être mieux. Les Américains pouvaient nous pousser dans le dos, parce que là, ils viennent de mettre 300 milliards sur leur prochain système. On va être encore les parents pauvres. Alors donc, j'ai appris de belles choses de ferroviaire.
Et donc, 2022, tu décides, OK, ça tombe bien, il y a la pandémie, on est en télétravail, tout toute façon, on ne peut plus aller au bureau. Puis à la limite, transition, ça tombe bien. Ben Marc, Sodec, Québécois, Solio, comment ça, Viarail. Laisse-nous quelques tips sur comment naviguer dans le top management des parcours. Comment tu as fait?
D'abord, travailler. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Ce n'est pas des niveaux de boulot qu'on peut faire avec juste les 35 heures. Il y a des sacrifices derrière. Les fameux 35 heures ne sont pas suffisantes là, pour faire ce nombre de boulot. Mais pour les jeunes, ce qui est un peu plus concret, c'est de comprendre aussi la structure hiérarchique d'une organisation. Vous ne pourrez pas quitter de conseiller AVP. Ça n'arrivera pas. Il y a une structure. Ça va être un conseiller principal, un directeur principal, directeur exécutif, VP, VP. C'est comme ça que ça va se passer. Si vous ne comprenez pas la structure de progression, parce que si on parle de progresser dans la chose, il faut vraiment comprendre ça et savoir que chacun des paliers nécessite ou de l'expérience ou un niveau de formation. Et ça, il faut aller le chercher. C'est-à-dire que ça ne va pas arriver comme ça. Comment tu as la formation? Ou tu as un niveau d'engagement très très fort dans des domaines tellement divers, d'où l'importance de mon niveau d'engagement, ou tu vas à l'école, ou bien dans l'organisation, il y a des plans de formation pour que tu puisses monter la gestion du personnel, la gestion des équipes, une équipe de 2, une équipe de 10, une équipe de 5, et puis c'est comme ça que tu vas monter les échelons. Après ça, il y a aussi ta personnalité. Moi, je n'ai jamais pensé qu'on me faisait une faveur. J'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête de pauvre...
Confiance en toi?
Oui, dans ma tête de pauvre, de me dire, oui, j'ai travaillé assez fort pour être là. Ça ne m'a pas toujours réussi. Il y a des portes qui se sont fermées. Là on voit la finale, il y a des portes qui se sont fermées. Puis là, je me dis, mais voyons, pourquoi il a fermé la porte sur moi demain? C'est parce que tu n'étais pas dû, et puis parce que tu ne trouvais pas bon, et puis parce que... mélange souvent d'injustice, c'est ce que tu penses, ou mélange, tu n'es pas prêt, ou il y a des mélanges de...
Mais c'est parce que... tout. Oui, c'est parce que... OK, aujourd'hui, je veux dire, beaucoup ici me connaissent, moi, quand ce sont des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur. Aujourd'hui, on parle beaucoup diversité. Ouais. On parle beaucoup inclusion.
Ouais.
Mais ton parcours, c'est bien avant que ces choses-là ou ces concepts ou ces enjeux ne viennent à la mode. Je vais d'abord laisser Québécois, quoique. Mais prenons Solio et Viarail.
Ouais.
C'est deux grosses entreprises avec une image très forte, ancrée dans le Canada. Et toi, fils de Bobo Dioulasso, tu arrives et tu es leur visage, parce que tu es quand même aux communications de Viarail.
Ouais.
Tu es aux communications de Solio. Comment ça se passe? Comment on joue là-dedans? Travail, compétent, confiance en soi,
oui, mais au-delà. Et aussi, moi, je suis très... Là, je suis président du Conseil des Arts de Montréal.
Ça
m'importe comment je me présente devant les gens avec cette responsabilité-là. Comment l'institution, on la porte, est très, très important. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'aimerais ça rentrer dans ton garde-robe un jour, regarder. C'est bête à dire. Mais le gars, il s'attend à voir un VP arriver. Là. Pas le gars qui est allé faire du golf le week-end. Là. Donc, il faut que tu t'habilles. Il faut que... Avec la diversité, ce qui est bizarre, c'est que de temps en temps, il faut que tu enlèves tous les attributs qui font qu'on a te jugé avant que tu aies fait quoi que ce soit. Fait que moi, je me suis trouvé un couturier en ville. Ta job, là, c'est t'assurer que mon brand, Benmark, il soit clean, organisé, puis ne me fais pas faire des trucs bizarres. Tu sais. Mais quand je vais arriver, ils vont être assez confiants que, qu'est-ce que vous dites? L'habit ne fait pas le moine, arrête-toi. Essaie d'arriver avec ton débardeur qui fait ma job. ça ne marchera pas. Alors, il y a des petits attributs, il y a des petites choses. Et puis, j'avais aussi une responsabilité par rapport à ce que je disais, parce que ce n'est pas juste Benma qui parle, parce que c'est l'entreprise qui me porte et tout ça. Alors, j'essayais toujours de balancer. La question du brand individuel est très importante. C'est-à-dire, si sur Facebook, on te trouve avec la demi-miche de pain en main, puis la cigarette du bec de l'autre côté, mettons que ça ne fait pas sérieux. Alors, et j'ai déjà donné des formations aux gens là-dessus en leur disant, organisez un peu vos images, pas la photo que le cousin a prise. Là, elle est peut-être cute, là, mais ben, ce n'est pas celle-là qui va te vendre. Mm-hmm. Les gens doivent pouvoir te regarder et puis te faire confiance. C'est bête à dire, mais on est dans ce monde de l'image et tout ça. Et j'avais aussi un dernier truc que je donne aux gens, c'est... Moi, j'ai toujours prôné pour un leadership inspirant. C'est-à-dire, je ne veux pas que les gens me quittent puis qu'ils aient mal, qu'ils aient une boule au ventre. J'haïs ça. Je n'aime pas le truc de ne pas se sentir bien, parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont inconforté. Et comment je me suis senti après, puis ça, c'est dur à remonter parce que je ne sais jamais pourquoi la personne t'a mis dans cet état et tout ça. Alors, dans les comités de direction, ça paraissait. Mais tous mes collègues de comité de direction, tous les comités de direction que j'ai fait vont te le dire. À un moment, je pouvais arrêter l'ensemble de la conversation et puis dire, mais ok, c'est peut-être intéressant tout ce que tu dis là, mais pourquoi moi je ne suis pas bien? Il faut toujours amener aux gens ce qu'on ressent. Et là, ah ouais, t'es pas... Non. Puis là, il dit, ouais, j'ai un malaise. J'ai dit, non, t'as pas de malaise si j'appelle un médecin? Non. Qu'est-ce que tu sens en ce moment? Tu ne comprends pas? Tu ne sais pas? Tu veux que je répète? Tu ne peux pas avoir un malaise. Si c'est un malaise, c'est un médecin que j'appelle. Alors, il faut développer soi-même ses codes de résolution de problèmes, ses codes de médiation, les relations interpersonnelles qu'on établit avec les gens. Et... Moi, je chéris beaucoup l'idée que les gens ne se quittent pas avec des nuages sous la tête. Et puis
Est-ce que tu as dit tantôt qu'il y a des portes qui sont fermées? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus?
Oh, mais hein, qu'il y a des refus. Mais il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de nous. Il y a des gens qui ne savent tout simplement pas quoi faire de nous. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'offre que tu lui fais, la proposition que tu lui fais ne marche pas. Il y a des fois où c'est tellement injuste que ça peut te déstabiliser. Et là, c'est dans ce moment-là que le petit Africain en moi remonte rapidement. Je suis croyant. Qu'est-ce que tu veux? Je me dis, ok, ça peut marcher, mais c'est oublié. On prend le prochain. Mm-hmm. Puis c'était pas pour moi. C'est comme si ma mère disait ça. C'était pas pour toi, ça continue. Mm-hmm. Alors, il y a des portes qui se ferment. Oui, elles vont se fermer. Et puis, au début, j'essaie de comprendre, j'essaie de décoder si j'ai une part de responsabilité dedans, j'essaie de décoder quelle est la part de responsabilité par rapport à la rencontre ou la chose qui ne s'est pas faite. Et puis, si je n'ai pas trop de réponses, je ne reste pas longtemps dedans. Mm-hmm. Je passe à autre chose rapidement.
Donc, je vais directement aller à l'autre chapitre qui est celui de la culture.
Yes!
Je vais poser la question différemment,
okay,
de ce que j'avais pensé ou ce que j'avais noté. Pourquoi tu as dit, vous avez dit, pardon, Monsieur Benma Guyandéré, pourquoi vous avez dit oui au poste du président du Conseil des Arts Moyens?
Ah, ben, d'abord, je connaissais l'organisation. J'avais été membre du Conseil d'administration pendant 2 mandats. Puis parce que j'aime l'organisation. Le deuxième élément d'acceptation, c'était la question de la diversité. Je trouvais que ça faisait intéressant pour l'organisation qui a prôné beaucoup la diversité et les programmes d'ouverture et tout ça, d'avoir un président noir. Puis, ça revenait rajouter un peu à ce que Montréal est en train de devenir. je fais une parenthèse rapidement parce que j'ai vu une photo que vous avez postée de moi et puis de mon ami Kenza de
Moridia
de
Culture Montréal.
Culture Montréal et Erika Alneuse. Mm-hmm. Ça m'a frappé quand j'ai vu la photo. La directrice de la culture.
De conseiller ou ouais,
la en charge de la culture, culture à la ville. Et nous, mm-hmm. Il y a moi, puis il y a Moridia qui est là, la Culture Montréal. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui a changé dans la ville quand même. C'était, on fait un petit moment de. On l'a réussi celui-là. Là. Mais. Au-delà de l'anecdote, il y a quand même le fait que quand moi j'accepte cette responsabilité-là, je me dis, ça va être une façon de promouvoir comme il faut les programmes du Conseil des arts de Montréal qui sont destinés en fait à toute la population de Montréal. Pas juste le centre-ville, tout le monde. Diverses origines, tout le monde qui ils savent même pas que les programmes existent pour eux. Julien est là et puis on, les efforts qu'on met. Et comme on n'a pas assez d'argent pour aller à la télé, aller dire aux gens, venez nous voir et tout ça. Et puis comme on n'a pas beaucoup de ressources humaines non plus pour gérer tous les dossiers qui arrivent. Mais on veut quand même faire connaître les programmes du Conseil des arts de Montréal. C'est une belle organisation. La ville de Montréal a décidé qu'elle allait confier une partie de son cœur créatif à gérer à l'extérieur des programmes de la ville, donc la direction de la culture à tout le reste, les parcs, les maisons de la culture, les ateliers d'artistes, tout. Et nous, on nous a confié le cœur créatif de Montréal. Les artistes, ceux qui découvrent, ceux qui commencent dans 13 disciplines. 13, 17 disciplines. Mm-hmm. Puis, on attend que les gens, que le monde vienne. Et c'est une belle institution que les gens ont besoin de connaître. Moi, je suis allé parce que je pense que là, je peux faire un élément de promotion pour pour le CAM, pour la diversité, puis parce que je voulais aussi changer un peu cette organisation-là. Mm-hmm. Amener la question de la philanthropie, amener la question de l'éco-responsabilité, l'internalisation, c'est-à-dire, oui, on a une ville avec une diaspora. Comment ça se fait qu'on ne va pas chercher les diasporas, qu'elles soient turques, libanaises? Il faut trouver une façon que ça se passe, parce qu'on est chanceux de vivre à Montréal avec une si grande diversité, mais que tout ça se reflète dans notre environnement de production et puis de créativité.
Est-ce que vous voyez des changements?
Mais bien sûr. Mm-hmm. Ah ben oui, d'abord, on voit avec les demandes qui arrivent. On le voit aussi dans la dans les productions. On voit les tendances changer. Un de nos gagnants cette année, Jot, le street art, c'est-à-dire ça a traîné à Montréal combien d'années, mais là on l'a ramené au Grand Prix, ils ont gagné quand même le prix du jury cette année et tout ça. Et il y a beaucoup de créations à la marche qui se font. Écoutez, les grands ballets ont rentré la production là, d'ailleurs là, tranquillement. Regardez les salles de théâtre aujourd'hui, le Duceppe a totalement transformé. Là. Le Duceppe a fait Martin Luther King, et puis name it. J'oublie le nom de la pièce, juste des femmes arabes.
Maman.
Et mm-hmm. tout ça. Les femmes arabes, Ben Marc, franchement. Alors, ça change. Mm-hmm. Ça change dans la création, ça change dans les institutions. Pas à cause de Ben Marc, parce que tout le monde est un peu conscient qu'on se prive d'une certaine créativité à ne pas être très ouvert sur la diversité. Et l'autre truc qui me ravit le plus, c'est tout ce qu'on fait en ce moment pour les populations marginalisées, les non-voyants, les malentendants. Écoutez, on est capable au rideau vert d'amener des gens qui ne voient pas au théâtre. C'est hyper important. Qui c'est qui a dit, je ne sais pas sur quel des penseurs, qu'on reconnaît une société à la façon dont elle traite ses...
Ces minorités,
je ne sais plus qui, mais en tout cas, c'était bien dit. Alors, tout ça, mais vous savez, c'est une expérience incroyable. Mettez juste le nom de votre enfant là-dessus, ou mettez juste le nom d'un parent dessus, d'imaginer, parce qu'elle ne voit pas, on pense qu'elle ne peut pas aller au théâtre. C'est le rideau vert, on l'a fait. Là, on a
et pour les populations autochtones?
Et les populations autochtones, mm-hmm. Oui, on a créé un programme en ce moment, on a un comité des arts autochtones au CAM pour accompagner toute la créativité dans les communautés des premiers peuples. Et là, on le voit arriver, art plastique, art de la rue, il y en a.
Moi, je vais vous dire quelque chose qui est un peu la perception qu'on a du côté de certaines populations, et là je pense plus aux populations diversité, minorité visible. Mm-hmm. Quand vous parlez aux gens, la première chose qu'ils vous disent, c'est en fait l'accès à la culture. On n'a pas accès à la culture, aux espaces culturels, les institutions, on n'y a pas accès. Donc lorsque Ben Marc est nommé président du Conseil des Arts, on voit ça et on se dit super. Il y a un noir à la tête du Conseil des Arts, ce qui a été repris par toute la presse. Moi, j'applaudis ça, ça ne me dérange pas du tout. Je suis pas mal à l'aise avec ça, tout au contraire. Et on se dit, ça va permettre justement cet accès. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu au Conseil des Arts? Est-ce que c'est d'ailleurs votre mission? Ou je sais pas, je dis ça
ben,
comme ça.
On est un organisme de financement. Okay. Je dis, on est un organisme philanthropique qui joue pas totalement tout pleinement son rôle. On nous donne de l'argent à redistribuer à une communauté et à faire la promotion des projets novateurs et des créateurs, des écrivains, des poètes, et des gens qui veulent créer, mais qui sont de l'île de Montréal. Mm-hmm. Est-ce que l'accès à la culture... Écoutez, les Montréalais sont gâtés. On a des maisons de la culture, on a des parcs remplis de productions l'été. Les festivals, je ne parle même pas de ça, parce que ça, c'est la ville de Montréal qui s'en occupe. Nous, on fait le CAM en tournée, où on prend des productions qu'on amène dans des quartiers qui ne sont pas. Tu as l'OSM et l'OM qui vont sur la place Pinneuf, en dessous du stade olympique. On a l'OSM en plein parc. C'est énorme. C'est contre le nombre de personnes sur la selle et leur salaire, et puis tu imagines qu'on fait ça quand même gratuitement pour les gens. L'accès à la culture, et on n'est pas seul à le faire, il y a Culture Montréal qui est là, il y a les journées de la culture qui font aussi du travail. C'est un effort collectif. Le CAM a sa mission, c'est de s'assurer que tous ceux qui ont envie de créer à Montréal, sur certains créneaux, trouvent au moins un début de commencement de financement de leur affaire. Généralement, on est la bougie d'allumage. On commence. La SODEC, les calques et les autres, il y a des fois, tu ne peux pas arriver avec un projet, tu n'as jamais rien fait. Mais nous, on est peut-être la première bougie d'allumage pour permettre à la personne de pouvoir continuer le reste du processus de financement de ses productions. Alors, l'instrument est perfectible, oui. On a besoin de plus de moyens parce que, juste l'expérience de la pandémie, on avait quoi? 300-400 demandes par an. Et là, tout d'un coup, tous ceux qui sont partis du reste du monde, qui sont revenus à Montréal, ben, ils venaient nous demander de l'argent. Ben, tout d'un coup, on a doublé le nombre de gens qui demandaient de l'argent, mais on n'a pas d'argent pour eux. Mm-hmm. Mais comme on n'avait pas de tournée, et comme on n'avait aucun programme qui fonctionnait, on a déplacé, avec l'intelligence de l'équipe de Julien et Nathalie, de déplacer les fonds qu'on a sur ceux qui viennent d'arriver. Donc, ce sont les primo-demandeurs, comme on les a. Mais la pandémie est finie, ils ne sont pas partis. Donc, ils sont là maintenant. Nous, on est pris avec une gang de gens qui sont des primo-demandeurs, à qui on a donné de l'argent pour leur projet. Les projets ont commencé, mais on ne peut pas dire non. Là, on se retourne, on dit à la ville, « By the way, nous, dans la relance culturelle, nous avons donné de l'argent à un tel, un tel, un tel. Il faudrait que vous nous donniez un peu plus pour nous permettre de passer à travers. » Et ils nous ont écoutés, en partie, mais on a eu une partie de l'argent. Ils nous ont rendu des choses un peu plus récurrentes pour nous permettre de passer à travers ces changements-là. Mais l'accès à la culture, oui, je suis d'accord. Mm-hmm. Il faut travailler.
Ouais. Il y a, j'ai repéré là dans la salle, il y a des gens qui m'ont dit, Ben Marc, ah, c'est lui l'invité, ok. Est-ce qu'il va parler art? J'ai dit oui, il va parler art. Donc, je vais les laisser discuter de ça avec toi. Je veux juste terminer avec deux, trois choses. C'est volontairement que je n'ai pas lu, entre guillemets, ta biographie en me disant que ce parcours allait permettre aux gens de découvrir un peu qui tu es. Par contre, il y a quand même quelque chose avec laquelle j'aimerais terminer parce que tu es impliqué dans, j'ai compté à peu près, sauf erreur de ma part, je suis sûr que j'en ai oublié, une quinzaine de conseils d'administration. Okay. Mais tu es en transition, tu as le temps. Donc, j'ai compté ça, je me suis dit, mais comment il fait? Je veux juste, comme ça, hein, pour le plaisir, Est-ce que je vais les retrouver, moi? Excusez-moi. Bref, il y en a une douzaine. Mais là, il y a quelque chose de particulier sur lequel je veux revenir. C'est quelqu'un qui dit « La bourse Audace et Innovation de Ben Mark est arrivée à point nommé car elle m'a permis de me concentrer sur mes études supérieures et d'acquérir les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. Je remercie sincèrement le donateur pour son soutien indéfectible dans l'octroi de bourse destiné à relever les défis des études supérieures. Une fois de plus, je remercie tout particulièrement Ben Mark Diendéré pour son soutien exceptionnel et sa contribution à l'actualisation de mon parcours académique. » Ça, c'est une étudiante de l'Université de Montréal qui est en faculté de médecine en optométrie, qui a reçu, elle s'appelle Tosi Omonye Ongedebe, elle a reçu une bourse de ta part. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que on est ici entre nous en famille, c'est quelque chose dont vous ne parlez pas, dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'implication que vous avez au sein de la communauté, mais je parle de manière large, et des actions posées directement qui impactent directement la vie des gens, en l'occurrence cette étudiante. Ma question est d'une banalité affligeante. D'où vient ce désir d'aider comme ça les gens?
Je savais pas que tu allais me demander. Je savais pas que tu allais me parler de mes actions philanthropiques comme ça. Ça m'émeut parce que je l'aime beaucoup, cette fille-là. Ben, donnez au suivant. Moi, je sais ce que ça a représenté de ne pas... Écoute, ça me fait pleurer.
Non, on se vous voit. On se vous voit. J'insiste beaucoup. Non, je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais le mentionner.
Mais moi, je crois donner au suivant.
Je voulais le mentionner.
Ouais, je pense donner au suivant. Ben, les gens ne pas vu. Je ne me fanfaronne pas sur la place publique pour ce que je fais de bien pour les gens et tout ça, parce que je ne pense pas que je fais des choses.
Mais mon rôle,
je me trouve chanceux de pouvoir le faire. Mm-hmm. Moi, je suis. Je sais ce que l'éducation a représenté pour moi. Je sais ce que avoir un petit montant d'argent pouvait changer dans la vie des gens. Quand vient le temps de faire de ton implication, il y a des choses qui sont structurelles ou pas. Il y a bien des choses que les gens ne savent pas de moi. C'est drôle que tu amènes celui-là, mais on a réussi à mettre au Burkina Faso une centaine de filles à l'école de nos poches personnelles. Ça, c'est des bourses d'études supérieures. Moi, je sais qu'il y a des maladies orphelines chez les afro-descendants. Et l'anémie falciforme, des maladies oculaires qui tiennent de nos communautés, mais qui ne seront jamais financées par personne sur la base. C'est pourquoi j'ai décidé que les bourses que j'allais mettre en place, c'était des bourses qui allaient aller directement à des maladies orphelines, mais directement orientées sur nos communautés. Et c'est une bourse qui est à l'Université de Montréal, c'est un fonds personnel qui est là-bas. Ça me touche que tu parles de ça parce que je reste même pas en lien avec les gens parce que je reçois le message tout d'un coup, je me dis, c'est elle qui l'a reçu, et elle me raconte son projet et la suite des choses. Elles sont deux cette année qui ont des super beaux projets, j'ai hâte de voir celles qui arrivent ensuite. Et dans nos communautés, c'est important d'impliquer, de mettre les gens dans la philanthropie. Moi, je ne suis pas unique en ce domaine-là. Je connais des collègues qui le font. Ils n'ont pas besoin de l'écrire sur nos réseaux sociaux ou Facebook. Dans la culture, je pense que mes comptes de banque sont vides à cause de la culture. Je n'arrête pas de payer le compte. De soirée bénéfice en soirée bénéfice.
Tout à fait.
Et des productions que tu payes avec tes moyens propres. Moi, j'y crois, donc j'ai même les moyens. Puis je veux que ce soit structurel. Okay. Je ne crois pas en des actions ponctuelles qui s'arrêtent tout de suite.
Au bout d'un moment. Ouais. C'est dans la lignée, et on finit avec ça, c'est dans la lignée de cette initiative Excellence Québec.
Ouais.
On dit un mot là-dessus, parce que ça oui. aussi, c'est...
Ben, c'est notre bébé à Madeleine et moi.
On parle de Madeleine Fekir.
Ouais.
Voilà.
Ben, c'est encore une fois, quand vous avez la chance que j'ai ou les responsabilités que j'ai, tu te dis comment tu donnes au suivant. Et puis comment tu t'arranges pour ne pas être l'exception. Moi, je sais que j'ai été le premier dans ben les affaires. Mais je ne veux pas rester l'exception. Je trouve ça inconfortable d'être tout seul en haut ou tout seul quelque part. J'aime qu'on soit nombreux. Je trouve ça plus intéressant, plus fort et tout ça. Et l'idée est venue avec Madeleine. Tous les deux, on est des gens du corpo. Et on sait, Madeleine Fekir, qui est aujourd'hui consul du Canada, de Chicago et toute la région du Midwest. Et on s'est rendu compte qu'on était les deux seuls que les gens appelaient pour mettre sur des conseils d'administration. Et tu dis que j'en ai 12 ou combien? À un moment, moi je trouvais ça totalement pénible et presque insultant pour ma communauté. Je me suis dit, mais moi je connais du monde qui pourrait faire des conseils d'administration et pourquoi les gens sont assez paresseux pour ne pas se mettre à chercher les... Mais on ne les connaît pas, Ben Marc. Je dis, ok. Ma voix vous les présenter. Alors, un dimanche, dans le New York Times du dimanche, il y avait un magazine, ils ont toujours un magazine du dimanche du New York Times. Puis il y avait un damier là, avec des faces, beaucoup sur la couverture. Je dis, oh non, ils sont tous morts dans un crash d'avion. C'est le premier truc. Gestion de crise. Oh non, ils sont tous morts. Après, je lis, non, c'est la communauté italienne de New York qui avait acheté le front page du New York Magazine et qui avait mis la photo de 40 Italiens en dessous de 40 ans qui méritaient d'être connus. Bingo, l'idée. Je me suis dit, ah ben, c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, nous-mêmes n'avons besoin de personne pour certifier les gens qu'on va choisir parce qu'on va se donner un critère objectif de les surveiller sans qu'ils le sachent. Donc, ils ne savent pas qu'on les surveille, ils ne savent pas qu'on est... Ils savent pas, tout ce qu'ils savent, c'est qu'on s'est abonné à leur compte LinkedIn. Mais on les surveille. Est-ce qu'ils sont steady? Est-ce qu'ils ont besoin d'un coup de main? Ou est-ce que leur posture a besoin d'être upgradée? Et tout ça. Et avec Madeleine, on s'est dit, chaque année, toi, tu suis 5, moi, j'en suis 5, puis on avance. Et puis, un jour, on décide d'appeler les gens et leur dire, nous, on pense que vous devez faire partie de notre cohorte, qu'on appelle Excellence Québec. Et dès que la personne rentre donc, on l'affiche. Donc, il y avait vraiment une séance photo, travailler la bio de la personne. Omar est là qui peut témoigner. Donc, on organise la bio de la personne. On raconte l'histoire en fait, de la personne dans ses mots avec des spécialistes. On crée un bloc et on projette la personne comme membre de notre cohorte. On est rendu à la quatrième cohorte. On est sur une centaine de conseils d'administration maintenant. Parce que dès que tu montes sur la cohorte, les institutions commencent à nous appeler. Okay, c'est là, ils sont là. Ils sont paresseux, mais quand ils s'y mettent, ils s'y mettent. Alors, pauvre Omar, il s'est retrouvé avec trois conseils d'administration en même temps. Il faut maintenant qu'ils choisissent. Mais après, c'est la personne qui décide si elle veut le faire ou pas, si elle veut être sur tel conseil ou pas. C'est une initiative qui tient, payée par nous, par nos poches, pas de subvention, pas de rien, avec un taux de succès qui est de 100%. Là, on a une sénatrice maintenant, on a un chancelier de l'Université Mermel, qui sont tous passés par notre cohorte. Le numéro 2 de la Chambre de commerce, le conseil, c'est Vicky quand même, était sur notre cohorte. Will, c'était à Gênes, à la Caisse de dépôt et déplacement. On a du gros monde, là.
Tout à fait. C'était ça. Il y a trois Omar. Ben Marc Guindéré, Université de Montréal. Je vous ai dit, je ne vais pas oublier. L'Université de Montréal, le Conseil des arts de Montréal, le Comité consultatif de l'économie et de l'innovation du gouvernement du Québec, Excellence Québec, Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, Factory, UNICEF Canada, Petit Frère, Groupe 3737, j'ai oublié qui? Je pense que je ne les ai pas tous nommés, mais il y en a encore, c'est dire à quel point...
Mais ça a l'air comme ça, c'est chronophage, Sachez là, c'est très très chronophage. Et puis je ne prends aucun de ces engagements-là si je ne sais pas la mettre dans mon dans mon... Mes assistantes sont folles, mais ce n'est pas grave. Il faut mettre ces agendas-là, les comités. Je vois Mireille qui est là pour l'UNICEF Canada. Il faut mettre ce comité-là dans un truc qui ensuite le bon... Oh. Mais c'est vivifiant. Pour ceux qui sont en train de commencer dans le corpo, vous avez plusieurs façons de faire votre réseau. Par vos compétences. Vous êtes comptable, il y a le réseau des comptables, l'ordre des comptables. Les amis. Vous pouvez apprendre aussi par l'entreprise elle-même, ses partenariats et tout ça. Mais il y a tout le réseau que vous allez bâtir. Et vous n'allez le bâtir qu'en faisant ça. En vous impliquant dans autre chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous apprenez à penser différemment. Vous apprenez à réagir différemment. Ça fait de vous de bien meilleurs gestionnaires qu'autre chose. Et moi, comme je suis dans des organisations de milliards et de milliards, de 25 000 employés, 35 000 employés, je n'avais jamais la notion des petits frères, par exemple, qui sont 150 employés. Donc, ta notion de dollars n'est même pas la même. Moi, quand les gens arrivaient au cours d'une réunion et puis ils faisaient une discussion longue, moi, je te dis, mon Dieu, c'est-tu 1 million qu'on cherche? Après, on me dit 5 000, je dis, mon Dieu. C'est comme... semble que je réglerais ça d'un chèque, tout ce type, ce serait fini. Pas parce que je suis super riche. Mais la proportion des dollars, quand vous êtes dans les organisations, je regarde mon banquier qui est là aussi, mais n'est pas la même quand vous n'arrivez pas à savoir que des gens pour qui 500 dollars, c'est 500 dollars. C'est beaucoup d'argent. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a une ingéniosité qui se pose aussi à trouver 500 dollars comme à trouver 1 million. Puis c'est les mêmes expériences qui me permettent aujourd'hui d'être président du comité de développement de l'Université de Montréal pour sa prochaine grande campagne qui va être d'un milliard. C'est à moi qu'ils l'ont confié.
Okay. C'est parce que ça peut dire.
Tu développes. Oui, parce que tu vas développer une série de réseaux, de façons de faire. Puis tu n'as même plus peur des millions. C'est bizarre. Ça ne peut pas des millions. Je vois Julien qui, là, on parle de faire de chercher de l'argent pour le Conseil des arts de Montréal pour développer notre posture philanthropique. Puis moi, ça ne m'effraie pas parce que je sais qu'on peut aller s'asseoir, convaincre les gens. Il faut juste avoir la bonne façon d'amener ça. Et puis, pourquoi les gens ne donneraient pas de l'argent à l'Université de Montréal, qui est la seule université francophone d'Amérique? De cette taille. Mais il y a l'UQAM, il y a les autres, mais je veux dire, notre taille est immense, là, quand même. Et aussi de s'assurer que chaque engagement que vous prenez, vous ne laissez pas les gens en plan. Vous donnez la parole, trouvez les moyens.
Aller jusqu'au bout,
et puis ça n'a pas besoin toujours d'être avec des confettis et des affaires, ça peut être. Du temps, votre compétence, votre amour des gens, tout simplement.
Merci. Merci à vous. Je n'ai même pas eu besoin de conclure. Voilà la conclusion.
Hein? Merci,
c'était
merci,
franchement, je suis content. Très bien.
Merci à Ben-Marc Diendéré, président du Conseil des arts de Montréal. C'était Les Grandes Conversations, une initiative de l'Institut Néo-Québec. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à liker ou encore à commenter. Nous vous disons à la prochaine. Mon nom est Cyril Écoilant.